Vous êtes capable, Satan. Tu triompheras sur toute la surface de la Terre. Et ce sera la fin du monde.
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, quatrième épisode de notre série consacrée à l'hérésie cathare au Moyen-Âge. Les cathares, vrais hérétiques ou inventions de l'Église? Avec l'historien Arnaud Fossier. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment l'Église s'est mise à nommer cette hérésie cathare, décrite en détail comme une véritable religion. À partir du XIIe siècle, l'Église catholique décide d'éradiquer dans le Languedoc ceux qu'elle appelle les cathares ou les albigeois, qui ne cessent de faire des émules dans cette région. Des moines sont missionnés dans les villes et les villages pour prêcher la bonne parole et prononcer l'excommunication contre les hérétiques. En 1147, par exemple, Bernard de Clairvaux sillonne les routes du Languedoc afin de prêcher contre l'hérésie en passant par Poitiers, Bergerac, Périgueux, Sarlat, Cahors, Albi et Verfeil. À Verfeil, où il ne rencontre que des cris hostiles, l'abbé cistercien, enflammé du zèle de sa foi, aurait prononcé envers les habitants cette malédiction « Verfeil, que Dieu te dessèche ». Et comme toutes ces missions semblent vaines pour ramener les hérétiques dans la vraie foi, cet abbé aurait déclaré à ses soldats « Saisissez-les et ne vous arrêtez pas, jusqu'à ce qu'ils périssent tous, car ils ont prouvé qu'ils aimaient mieux mourir que se convertir ». De la menace verbale à la violence physique, il n'y a qu'un pas que l'Église ne tarde pas à franchir, et à grande échelle. Sur ordre d'Innocent III, le nouveau pape qui porte mal son nom.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Puisque Toulousain, albigeois, Jean du Carcassès et celui qui les protège sont pires que les Sarrasins, c'est une croisade qu'il faut maintenant prêcher. Arnaud Amaury, vous serez à la fois le cerveau et la main terrible de la croisade. Nous accorderons la rémission de leurs péchés, présents et futurs, à tous ceux qui, embrasés du zèle et de la foi catholique, combattront pour venger le sang du juste. Que les seigneurs cathares perdent leur terre et que cette terre soit donnée à ceux qui se croiseront. Faites crier jusqu'à Constantinople que celui qui ne se croisera pas ne boive plus jamais de vin, qu'il ne mange plus sur la nappe, mais par terre comme une bête, qu'il ne s'habille plus de chanvre ni de lin, et qu'à sa mort, on l'enterre à même le sol, comme un chien.
En 1209, Innocent III lance une véritable croisade contre les hérétiques du Languedoc, la croisade dite des albigeois. La situation est d'autant plus grave qu'une partie de la noblesse et du clergé est passée du côté de l'hérésie. Le pape lève une véritable armée de croisés parmi de grands seigneurs féodaux en leur promettant des faveurs et la rémission de leurs péchés comme s'ils partaient combattre en Terre Sainte. Commandé par Arnaud Amaury, le légat du pape, cette armée, forte de 1500 chevaliers et de 10 000 hommes à pied, assiège la ville de Béziers, tenue par le vicomte de Trencavel et qui abrite de nombreux hérétiques.
Vous refusez de nous livrer les hérétiques de Béziers, c'est que vous êtes tous des hérétiques.
Il n'y a ici que des citoyens, des citoyens. Et le conseil a enfin déclaré, nous préférons être noyés dans la mer salée plutôt que d'abandonner nos concitoyens.
Eh bien soit, la mer sera leur sang et le vôtre.
Que tous les chevaliers prennent leurs étendards. Le sang des infidèles sera doux au Seigneur.
La ville, bien que fortifiée, est conquise et détruite le 22 juillet 1209 et des centaines d'habitants, indistinctement, sont massacrés à l'arme blanche. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, aurait lancé l'impitoyable Arnaud Amaury. Le mois suivant, la ville de Carcassonne, célèbre pour ses remparts, est soumise à son tour après un siège de 2 semaines mené par le baron Simon de Montfort. La vie sauve est garantie aux habitants qui doivent quitter la ville avec leurs seuls habits, tandis que le vicomte de Trencavel se livre comme otage. Arnaud Fossier, ces massacres, et il y en a eu d'autres, sont gravés encore aujourd'hui dans la mémoire collective du Languedoc. Est-ce qu'on a une idée du nombre de victimes causées par cette croisade dite des albigeois ?
Non, malheureusement, c'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts et précis, tout simplement parce que les chroniqueurs de l'époque ont une tendance à l'exagération. Pierre de Vaux-de-Cernay, par exemple, un chroniqueur cistercien qui en quelque sorte est un reporter ou un journaliste de terrain, hein, qui suit les troupes croisées dans leurs différents mouvements, exagère considérablement ces chiffres. Pourquoi ? Eh bien, évidemment, pour amplifier l'importance de l'ennemi.
C'est aussi pour exprimer le choc ressenti, peut-être.
Absolument, aussi. C'est aussi une manière, malgré tout, de justifier, de légitimer les violences qui ont été commises. Et oui, on est du point de vue de l'Église, du croisé.
De l'agresseur.
Et par exemple, lui, il donne comme chiffre, concernant le massacre de Béziers, il donne le chiffre de 20 000 morts, mais qui est un chiffre très exagéré, puisqu'il y avait bien, 7 000 habitants à Béziers. Donc c'est techniquement impossible. Par exemple, le bûcher de Lavore, on sait que plusieurs, un peu plus d'une centaine d'hérétiques a été brûlé en 1211. Et à partir du moment, si vous voulez, où de toute façon, c'est une guerre qui dure une vingtaine d'années, les massacres, les bûchers ont été nombreux, donc on peut donner sans trop s'aventurer une estimation à plusieurs milliers de morts. Évidemment, ça en fait une guerre absolument atroce.
Il y a ce pape Innocent III, qui est un personnage assez terrifiant, considéré comme un des papes les plus puissants qu'ait eu l'Église catholique. Ses contemporains l'appelaient la stupeur du monde. Comment comprendre cette politique menée par le pape Innocent III? Qu'est-ce qui change avec ce pape? Ça prend une autre dimension.
On comprend mal cette guerre sainte contre les hérétiques si on n'a pas en tête le fait que ce pape, Innocent III lui-même, en personne, a prévu, déjà à assimiler l'hérésie à un crime de lèse-majesté. Et le crime de lèse-majesté, c'est essentiel puisque c'est le crime qui, au Moyen-Âge, dans le droit canonique, va justifier la peine capitale. Autrement dit, il est le premier à dire qu'il faut réserver la peine du bûcher aux hérétiques qui persisteraient dans leur hérésie.
Mais lèse-majesté, c'est contre le roi ou c'est contre le pape ?
Eh bien, c'est ce qu'on croit spontanément. En réalité, quand le mot est employé pour la première fois, c'est par le pape et pour le pape, d'une certaine manière.
C'est aussi parce qu'il a une vision de la papauté. Il y a quelque chose de très vertical qui est en train de se construire aussi à cette époque.
Bien sûr, l'ambition de ce pape-là, et ce sera celle d'ailleurs de ses successeurs, c'est d'asseoir ce qu'on appelle, d'un mot latin, mais qui est très facile à traduire en français, le dominium. Donc la domination universelle de la papauté. C'est-à-dire, il s'agit d'ériger le pouvoir pontifical en un pouvoir qui transcende tous les autres, y compris les pouvoirs princiers de l'époque. Donc ça, c'est une première raison. C'est renforcer le pouvoir pontifical à l'échelle de la chrétienté. Une deuxième raison, mais en fait qui est très liée à ce que je viens de dire, c'est que le Languedoc est une région qui se caractérise par des velléités d'indépendance de la part notamment des évêques. Donc, qu'Innocent III, justement, que ce pape juge insuffisamment vigilant vis-à-vis de la question de l'hérésie. Donc la croisade, c'est aussi une réponse à ce manque d'implication du clergé dans la résolution de l'hérésie. Et puis une troisième raison, ou en tout cas un troisième élément de contexte qui est absolument essentiel, la croisade albigeoise, elle est déclenchée 5 ans après l'échec retentissant de la quatrième croisade. On en est à la quatrième croisade en 1204. Il s'agit de libérer Jérusalem et les lieux saints de l'emprise musulmane, puisque Saladin a reconquis Jérusalem. Et cette croisade, malheureusement pour le pape, elle est détournée par les Vénitiens qui décident de s'arrêter à Constantinople pour des raisons notamment économiques, mais aussi politiques. Donc, il y a une frustration qui est liée à cet échec humiliant, aussi vécu comme humiliant par l'Église, cet échec de la croisade, vécu comme humiliant, mais vécu aussi comme la marque ou le symptôme du fait que la chrétienté latine a péché et elle a été punie de cette manière-là, c'est-à-dire par l'échec de la croisade. Donc il est temps que la chevalerie occidentale rachète ses péchés. Et comment racheter ses péchés? Eh bien, en menant une croisade sur le sol même de la chrétienté latine.
On se reporte sur les ennemis de l'intérieur.
C'est tout à fait ça. On compense l'échec face à l'ennemi de l'extérieur par excellence, les musulmans, le musulman, par une croisade contre l'ennemi de l'intérieur. C'est inouï, hein, parce que c'est la première croisade, c'est la première guerre sainte qui soit menée contre, alors, des chrétiens oui. et sur le sol même, dans l'espace même de cette chrétienté latine qui pourtant était un espace entièrement soumis à l'autorité pontificale.
La croisade albigeoise commençait donc en 1209, se termine en 1229, sans avoir réussi à éradiquer l'hérésie, qu'on l'appelle albigeoise ou cathare, dans le Languedoc. Merci Arnaud Fossier. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment l'Église va changer de stratégie pour mettre fin aux hérésies du Languedoc en créant l'Inquisition.